Voilà.
Je me chemise vite fait.
Ouais, c'est la cravate surtout. La cravate, j'insiste.
Alors, bonjour à tous, bienvenue à tout le monde, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Bienvenue à tous ceux et à celles que nous avons l'habitude de voir. Bienvenue à ceux qui viennent de temps en temps ou peut-être pour la première fois aujourd'hui. Nous disons aussi un grand bonjour à ceux qui nous regardent en streaming. Et au commencement de ce culte, j'aimerais lire un psaume qui va, je pense, bien avec le sujet d'aujourd'hui. C'est le psaume 130. Du fond de la détresse, je crie vers toi, Seigneur. Écoute ma voix. Sois attentif quand je te supplie. Si tu voulais épier nos fautes, Seigneur, qui pourrait survivre? Mais le pardon se trouve auprès de toi. C'est pourquoi l'on reconnaît ton autorité. De tout mon être, je compte sur le Seigneur. Et j'attends ce qu'il va dire. Je compte sur le Seigneur plus qu'un veilleur attend le matin. Oui, plus qu'un veilleur attend le matin. Peuple d'Israël, compte sur le Seigneur, car il est bon. Il a mille moyens de te délivrer. C'est lui qui délivrera Israël de toutes ses fautes. Alors, quand j'ai lu ce psaume, quand j'ai choisi ce psaume, je me suis dit, en fait, avec quoi est-ce que nous venons au Seigneur, vers le Seigneur? Personnellement, j'adore prier. C'est mon premier canal pour soigner ma relation avec Dieu, pour parler avec Dieu et pour passer du temps avec lui. J'aime bien la louange aussi. Moi, ça ouvre les portes de mon cœur, ça me donne beaucoup et ça m'ouvre pour Dieu. Mais lire la Bible, c'est moins mon truc. Désolé Philippe. Je le fais bien sûr, mais pas aussi régulièrement que prier. Alors, pour reprendre ma première question, avec quoi est-ce que je viens à Dieu? Est-ce que je viens juste avec mes problèmes et j'espère qu'il les résout? Ou est-ce que j'arrive à le louer, à lui rendre gloire, même pour une toute petite chose qui s'est passée dans ma vie, peut-être hier ou ce matin, avant de venir au culte. Est-ce que j'arrive à prendre ces cadeaux qu'il m'offre tout au long du chemin avec lui? Est-ce que j'arrive à les voir, ces cadeaux? Ou suis-je tellement occupée que je ne vois plus rien, à part mon timing de toutes les choses que je dois faire aujourd'hui et la semaine qui va venir? Personnellement, je vois les cadeaux de Dieu, mais je n'ose pas toujours les prendre. Pourtant, ce seraient des choses importantes pour ma vie, ou bien des choses qui, tout simplement, me feraient plaisir, et puis Dieu me les donne parce qu'il aime bien donner. Alors je les vois, et je ne les prends pas, par peur. Ou je me dis, ouais non, mais en fait, j'en ai quand même pas besoin, c'est bon. Ou alors je me dis, c'est trop cher. Ou je ne mérite pas. C'est trop pour moi, donc je le laisse. Pourtant, j'avais prié pour ces choses au préalable. Et Dieu a exaucé ma prière. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je repris pour les choses que j'ai ratées. Et puis Dieu m'a effectivement déjà redonné pas mal de ces choses que je voulais. Et je continue à prier pour le reste qui, j'espère, va venir. À travers ces expériences, j'apprends depuis quelques temps que Dieu exauce mes prières. Bon, ça je savais déjà avant, mais un peu autrement que ce que j'imagine. Et ce autrement, ça veut dire bien mieux, bien plus grand que je pensais. Et c'est pour ça, en fait, que ça me déstabilise. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Mon expérience avec la prière ces derniers mois, ces derniers temps. Et puisque j'ai parlé de prière, ben moi j'aimerais bien prier pour ce culte. Prions. Seigneur, merci que tu es Dieu. Tu es au-dessus de tout. Et comme le dit ta parole, tes pensées ne sont pas nos pensées. Tes plans ne sont pas nos plans. Ils sont bien plus élevés que les nôtres, plus grands et plus profonds. Laisse-nous te donner la place qu'il faut pour que tu puisses agir dans nos vies selon ta volonté. Et donne-nous la confiance que tu peux tout accomplir à ta manière. Amen. Et nous allons maintenant passer à un moment de louange et je laisse la parole au groupe de louange.
Et nous continuons pour la louange, j'ai aussi pris quelques paroles d'un psaume, du psaume 145, et qui contient plusieurs affirmations qui décrivent qui est le Seigneur ou quelle est son action. Alors ce psaume commence ainsi. Mon Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur et bénir ton nom pour toujours. Je te bénirai chaque jour, je t'acclamerai sans fin. Puis il y a différentes affirmations qui viennent un peu plus loin dans le psaume, à différents versets. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans limite. Le Seigneur est bienveillant et plein de tendresse. Il est lent à la colère et riche en bonté. Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à toutes ses œuvres. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Alors là, c'est quelques premières affirmations qu'on peut s'approprier pour nourrir notre louange. Et parmi les promesses, il y a celle du salut. Et c'est ce que rappelle notre premier chant qui utilise l'expression « Hosanna ». Hosanna, le salut est là, le salut est arrivé. C'est le débordement d'un cœur qui voit arriver l'espoir, la joie, le salut. Hosanna.
Hosanna, Hosanna. font jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Qui pourra taire
notre prière.
Le psalmiste n'est pas un doux rêveur, il sait que la vie peut être difficile aussi, mais il nous encourage encore dans ce psaume en disant « Le Seigneur soutient toutes les personnes qui sont tombées, il remet debout tous ceux qui fléchissent. » Alors demandons-lui un souffle nouveau pour nous remettre en marche. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il entreprend. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur est proche de tous ceux qu'il appelle, de tous ceux qu'il appelle avec sincérité. Le Seigneur protège tous ceux qu'il aime, mais il élimine tous les méchants. Alors que ces affirmations nous encouragent à nous confier dans le Seigneur et à chanter sa gloire.
Merci beaucoup, et j'aimerais continuer à louer Dieu en priant pour les enfants qui vont aller après dans leur culte. Seigneur, nous te remercions pour chaque enfant ici présent. Nous te remercions pour Chantal qui va s'en occuper. Ouvre leur cœur, leur être et leur esprit pour toi. Que ton Saint-Esprit se répande aussi sur eux. Ils te comprennent quelquefois tellement mieux que nous. Merci qu'ils aient une vision différente des choses. Elle nous enrichit et nous apporte un autre regard sur les choses. Sois loué, Seigneur. Amen. Les enfants, vous pouvez aller maintenant dans votre culte avec Chantal. Je vous souhaite bien du plaisir.
Bonjour à chacun, à chacune. Heureux de vous retrouver ce matin. Non seulement ce matin, mais plus si vous le souhaitez, puisque tout à l'heure, nous avons un repas communautaire accompagné, suivi, agrémenté d'un temps de réflexion, d'échange que le Conseil a préparé pour nous. On va faire un Slido inversé. Pour commencer, parce que Slido, si vous le souhaitez, il y aura tout à l'heure. Donc Slido, c'est cette appli qui vous permet de poser des questions pendant la prédication ou entre la fin de la prédication et le temps Slido. Si vous êtes inspiré pour des questions, zéro tabou, donc n'hésitez pas. C'est un format qui semble rencontrer maintenant un certain succès et je vous encourage en tout cas à utiliser ce format. Mais on va faire d'abord un Slido inversé, et c'est moi qui vais poser une question. Madame la coordinatrice, ça va ? Merci. À votre avis, quelle est la plus grande des vertus ? Ça va sur le mot vertu, valeur ? J'entends ? Ok. La plus grande des vertus ? Tu m'as coupé mon... Mais merci, ça me fait plaisir, parce qu'on dit, n'est-ce pas, que la patience est la mère des vertus, la plus grande. Et je pense qu'on va essayer de le découvrir ce matin, puis d'alimenter un petit peu cette réflexion autour de la patience. Et je vous propose que pour initier notre réflexion, nous lisions le beau texte biblique qu'Aline va lire pour nous maintenant. Merci, ça marche comme ça.
Alors, je vous lis le passage dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18, versets 1 à 8, comme vous pouvez lire là. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier, sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire, » disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit, « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit ? Tardera-t-il à les aider ? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?»
Et jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. La patience est la mère de toutes les vertus. La patience serait une valeur cardinale dans la vie. Et le passage biblique que nous venons de lire semble bien indiquer que la patience de la veuve lui permet au final d'obtenir la justice. La patience de la veuve serait donc un trait de caractère qui lui permet d'obtenir gain de cause. La patience. Le grand impatient que je suis est bien curieux devant ce texte. La patience. Ça serait cette capacité innée qu'ont quelques-uns, quelques-unes, à rendre le temps moins long, mieux habité, le temps un peu plus supportable, l'air un peu plus respirable. Mais la patience n'est pas un trait de caractère qui serait le propre de quelques trop rares personnes. Et je ne crois pas non plus que la patience soit une vertu tombée du ciel. Je ne crois pas qu'on ait patient. N'est N-A-I-T. La patience, et c'est ce qu'on veut essayer de découvrir ce matin, c'est une conséquence pratique d'une spiritualité chrétienne équilibrée. C'est ma proposition de ce matin. La patience, c'est une conséquence pratique d'une spiritualité chrétienne équilibrée. Spiritualité chrétienne dont nous offre une illustration ce passage. Alors je vais remonter le fil du récit pour observer les détails de ce bénéfice de la spiritualité chrétienne et qui sait aiguiser notre patience. Trois idées pour ce matin. La première, c'est que la patience épuise le mal. Le dénouement de cette histoire nous indique que la patience permet de venir à bout de l'injustice. Ce juge, qui ne voulait pas rendre justice. C'est quand même dingue, le contexte. Un juge qui ne veut pas rendre justice. Ce qui devrait être la justice n'est pas parce que celui qui devrait la rendre est injuste. On est devant la concentration de ce qui ne devrait pas être. Et en revenant à la charge, pour qu'au final la justice l'emporte, le droit l'emporte, la veuve, que Jésus met en valeur, incarne une attitude. Une attitude que Tertullien, alors peu le connaissent probablement, personne ne connaît quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle Tertullien, je pense. Pas facile à porter comme prénom, pourtant, un sacré bonhomme, parce que c'est un père de l'Église. Vous savez, nous, dans le courant évangélique, on n'est pas nés avec les Américains dans les années 80. Nous sommes issus du christianisme historique, de la réforme, toutes ces choses, et nous reconnaissons, dans notre tradition chrétienne, des pères de l'Église. Des gens qui, au début de l'Église, ont contribué à construire ses fondements. Et parmi eux, il y a Tertullien, qui écrit en 150, donc moins de 60 ans après la rédaction de l'Évangile, il écrit en 150 « Fatigue la méchanceté par ta patience. » Fatigue la méchanceté par ta patience. Autrement dit, la patience fatigue le mal. Tertullien, dans ses écrits, il fonde ce principe à partir d'une parole de Jésus. Il ne vient pas de n'importe où. Jésus qui indique qu'il faut présenter une autre joue quand on se fait frapper sur la joue. Luc 6, 29. Donc, Jésus dit qu'il faut présenter encore et encore jusqu'à ce que le méchant se lasse, perde la face, abandonne ou ne puisse se satisfaire de sa violence. Et c'est ce qu'a fait cette femme, la veuve, qui est revenue inlassablement. C'est une figure de patience. C'est une figure de patience. Comme il y a parmi nous des figures de patience. Mais la patience de cette femme ne tient pas seulement à un trait de caractère. Elle tient plutôt à un rapport de force. C'est ce que vient nous expliquer l'évangéliste qui écrit ce passage, Luc. Un rapport de force. Parce que d'un côté, il y a un juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes, rien à taper des autres, rien à taper de plus grand que soi. J'existe par et pour moi-même. Un juge qui ne craint ni Dieu ni les hommes. Et de l'autre côté, il y a cette femme dont on sait seulement, verset 3, qu'elle est veuve. C'est-à-dire une personne particulièrement vulnérable. Vulnérable. Une des personnes les plus faibles dans l'histoire de la Bible, avec les orphelins, avec les étrangers. L'Ancien Testament est saturé de cette vérité-là. Les personnes les plus vulnérables. Et le rapport de force, il est clairement en faveur du juge. Clairement. Un peu à la manière du géant Goliath, qui est muni de nombreuses armes face au petit David, qui n'a qu'une fronde et quelques pierres. Voyez le rapport de force. Le rapport de force est clairement en défaveur de la femme veuve. Mais au fur et à mesure, l'exaspération, la peur, la crainte gagnent le juge. Un rapport de force qui va s'inverser. Bien que je ne puisse pas dire que la peur change de camp, parce qu'il n'est jamais dit que la veuve ait eu peur. C'est d'ailleurs parce qu'elle n'a pas peur, parce qu'elle n'a pas tremblé, c'est parce qu'elle n'a jamais été saisie par la crainte que cette femme veuve va au devant du juge inique, à la manière de David, qui n'a pas craint d'aller au devant du géant Goliath. Voyez le rapport de force. Ce rapport de force qui bascule en faveur de cette femme à mesure que le juge est gagné par l'agacement, par une certaine crainte. Ça indique, mes amis, que la patience est à la base de l'attitude de cette femme. La patience, le fait qu'elle ne se lasse pas, qu'elle ne lâche pas le morceau, ça lui vient d'ailleurs. Ça lui vient d'ailleurs. Et c'est ce deuxième point que j'aimerais aborder maintenant. Je crois que ce texte, il nous dit quelque chose de super important. C'est que la patience de la femme, son courage, lui viennent de la prière. Ce n'est pas juste une qualité innée. Ça lui vient de la prière. Parce que c'est par la question de la prière que commence ce texte, qui est présenté par Jésus comme un enseignement sur la prière et le fait de ne pas se lasser. Si la patience est la mère des vertus, elle vient par la prière. C'est par la prière que la femme ne s'est pas lassée, qu'elle a fait preuve de patience et qu'elle a obtenu, au fin de compte, gain de cause face à un juge inique, un type imbuvable. Verset 1. Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. La patience vient par la prière. C'est quoi la prière ? Alors je sais que la super équipe groupe de maison de chez les Strubins a déjà évoqué cette question. C'est une question qui nous tient à cœur aujourd'hui en Église, la prière. Parce qu'on a un peu de peine à prier ensemble, parce que peut-être qu'on doit renouveler les formes et on en parlera tout à l'heure. C'est quoi la prière ? La prière, c'est le fait de porter sa vie devant Dieu. C'est ça, prier, entre autres. C'est porter sa vie devant Dieu. La prière, c'est le fait de penser sa vie en tenant compte de Dieu. Et cela a pour effet de procéder à un tri dans nos pensées, dans nos préoccupations, dans nos espoirs. La prière, elle permet de faire mourir de fausses idées, des visions erronées du monde, pour les ressusciter en une version plus fidèle au bel évangile. Face à Dieu, ce qui nous traverse la tête, le cœur, les tripes, c'est hiérarchisé. Face à Dieu, on commence à réaliser un peu mieux ce qui est important, ce qui l'est moins, ce qui ne l'est pas du tout. La prière nous permet de faire ce travail de discernement, qui nous permet de prendre conscience de l'importance ou de la futilité de ce qui nous traverse. Là, dans la prière, Dieu relativise nos réflexions, nos sentiments. Il purifie nos pensées. Il nous aide à ne retenir que ce qui en vaut la peine par le filtre de la prière. Porter sa vie devant Dieu et en tirer des conséquences. Porter un sujet dans la prière, c'est le confronter à ce que l'Évangile nous révèle de la vie. C'est aussi le confronter à une perspective universelle qui implique l'ensemble de nos prochains pour que ma compréhension des choses ne tourne pas qu'autour de mon nombril à moi. Je ne suis pas le centre du monde. Par conséquent, la prière vient donner du poids à nos convictions parce qu'elle nous permet de garder ce qui a de la valeur, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres, pour autrui. Et cette femme qui se présente devant le juge, elle est forte de sa soif de justice. Elle veut que justice soit rendue. Cette soif de justice, elle l'a mesurée à n'en pas douter devant Dieu, qui est un Dieu juste. La prière, c'est alors une manière de mettre le juge face à Dieu. Face à Dieu. Même s'il ne le craint pas, même s'il se moque éperdument de Dieu, par la prière, le juge se retrouve face à Dieu. La veuve qui a forgé sa conviction dans la prière incarne en elle-même rien de moins que la volonté de Dieu. Cette femme, devant ce juge unique, est la volonté de Dieu pour la justice. Quand elle se présente devant le juge unique, elle est donc forte, cette femme, de sa relation avec Dieu. Encore une fois, à la manière de David, qui déclare à ce géant Goliath, « Tu marches devant moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. » 1 Samuel 1, 45. David incarne l'Éternel. Cette femme incarne Dieu. Elle est là pour rappeler la personne de Dieu. Nous avons donc constaté que la patience est le résultat de la prière. Et la prière, elle, et c'est ma troisième et dernière idée, la prière, elle est la conséquence de la foi. C'est quoi la foi ? Sortez pas un verset biblique. Enfin, si vous voulez, oui, mais c'est quoi la foi, concrètement ? Parce qu'on dit beaucoup, hein, j'ai la foi, je manque de foi, ce qui est important, c'est la foi nous sauve et tout ça. C'est quoi la foi, basiquement ? Pardon ? La confiance, ouais, David ? C'est d'y croire, merci. Confiance, c'est d'y croire. Autre chose, c'est juste, hein ? Il n'y a, rien à redire. Hein. Croire sans voir. Ah, ça mériterait d'être repris. Merci, Denise. La foi est ou serait le contraire du doute. Merci. Autre idée autour de la foi. C'est quoi la foi ? Donc, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément construit tout seul. Ok, une révélation de Dieu. Très juste, hein, ce que... Ouais. Alors, merci, toi, tu es sur le verset biblique, mais c'est Nicolas Bérou. On est reconnaissant d'avoir des monos, des potes du dimanche qui connaissent des versets bibliques. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là, on est plus sur le contenu de la foi, hein, ce qu'on croit. Mais la foi, essentiellement, c'est notre relation à Dieu. C'est une rencontre. C'est une relation. La foi, essentiellement, c'est ça. C'est notre relation à Dieu. C'est le lien entre Dieu, l'objet de notre foi, et nous autres. On pourrait dire aussi que la foi, c'est le fait d'être saisi par Dieu. Saisi par Dieu. Que c'est le fait d'intégrer dans le cadre de nos convictions le caractère inconditionnel de la grâce de Dieu. J'ai bientôt 54 ans. Ça fait plus de 45 ans que je suis tombé dans la marmite. J'en ai entendu des trucs. Dans les écoles du dimanche, groupes de jeunes, les camps, les églises, les formations, les conventions, les conférences. J'en ai entendu des trucs. Des fois, ça fait beaucoup. Tellement beaucoup que des fois, parfois, ça nous déborde et qu'on se dit, oh là 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 là, est-ce que je crois bien ? Est-ce que je crois juste ? Il n'y a pas des trucs un peu contradictoires dans ce... hein ? Puis on remet certaines choses en question. Ce n'est pas grave, faites-le, je vous encourage. Puis à un moment donné, on a peut-être fait un travail qu'on appelle de déconstruction, ou même sans aller jusque-là, il y a des trucs qu'on met un peu de côté, puis il y a des trucs qu'on garde au centre. Au centre de ma foi aujourd'hui, il y a le caractère inconditionnel de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est inconditionnelle. On ne badine pas avec la grâce. On n'est pas dans la demi-mesure. On n'est pas dans l'à-peu-près. Ce n'est pas une grâce parsemée comme ça. C'est une grâce pleine et entière, complète. Alors on reste ferme, on ne se rétracte pas, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'adversité à laquelle nous devons faire face. Nous pouvons lui faire confiance. La foi, c'est le fait d'être saisi par le sens de la vie que l'Évangile nous révèle. Tu as de la valeur. Infiniment de valeur. Tu es aimé. À tel point que je suis d'accord de donner ma vie pour toi. Tu es aimé de façon absolue, certaine et définitive. Il n'y aura dans mon amour aucune trahison d'aucune sorte. Tu es aimé. Et tu es en sécurité. Ce que j'ai commencé de faire dans ta vie, je vais le mener à bien. Tu vas en baver des fois, mais je serai là, dit Dieu. Saisi par le sens de la vie que l'Évangile nous révèle. Valeur, amour, sécurité. si vous manque ça dans la vie, vous irez pas loin. Vraiment. Comme les enfants vont pas loin s'ils n'ont pas d'amour, de valeur et de sécurité. Si vous avez faim et soif de valeur, d'amour et de sécurité, venez à Dieu. Ouvrez-vous à lui. Il déploiera sa grâce inconditionnelle dans votre vie. Et votre vie changera. Mais venez à lui. Et n'attendez pas demain matin. N'attendez même pas les orages de l'après-midi. Faites-le ce matin. Et venez m'en parler, si ça vous dit. Lorsque la femme va vers le juge, elle porte Dieu en elle. Elle porte le caractère inconditionnel du sens de la vie, comme nous tous et toutes. Et elle ne transigera pas. Cela doit se voir suffisamment pour que le juge unique, je vais y arriver, pas unique, mais inique, parce que le juge unique, il est là-haut, et le juge inique, il est là en bas, et il s'est fait dépasser par cette femme remarquable. Ça va se voir suffisamment pour que le juge inique en prenne conscience et qu'il se mette à avoir peur. Il se mette à craindre cette femme qui vient lui casser la tête jusqu'à la fin des temps. Je trouve génial cette expression. Il le trouille. Et finalement, ce qu'on découvre, c'est que le juge ne fait pas le poids face à la veuve. La foi de la veuve lui a donné une consistance que le juge n'a pas. La foi, ça donne de la consistance. Je sais, on est peu de choses face aux grands, aux savants, aux puissants de ce monde. Je sais, je connais. On se fait tous humilier une fois ou l'autre, ou plus souvent qu'on voudrait. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas grave. La foi donne de la consistance. De la consistance. Et ça, je trouve que c'est un enseignement précieux pour nous, qui devons faire face à tellement de situations difficiles, parfois pénibles, pour lesquelles il nous arrive de penser que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous n'arrivons pas à nous en sortir, ni n'arrivons même à en sortir les autres. Et parfois avec une forme d'audace ou de témérité, nous nous lançons quand même dans la bataille. Et nous faisons preuve d'une certaine impétuosité. Et puis nous nous décourageons parce que le courage d'un instant ne suffit pas. On est gonflé à bloc, on y va, puis le soufflet retombe. Et on s'écrase devant la difficulté, devant le problème. Mais la veuve, elle, nous présente une alternative à ce scénario malheureux. Une vraie alternative. La veuve nous fait découvrir le bénéfice de la foi. Et le bénéfice de la foi, c'est de tenir bon. C'est de tenir bon. La foi nous permet de tenir bon. La veuve nous fait découvrir ce bénéfice. Tenir bon. Qu'est-ce qui nous permet de tenir? Lorsque c'est dur, voire lorsque c'est très dur, ben c'est la foi. Notre relation avec Dieu. Ce lien fort avec ce qui est essentiel à notre vie et ce qui est vraiment essentiel à ma vie, c'est Dieu. C'est parce que nous prenons conscience de la valeur de la cause que nous défendons ou du projet que nous menons que nous ne baissons pas les bras simplement parce qu'il y a des difficultés ou de l'hostilité. Dieu fait justice, dit ce texte, à tous ceux, à toutes celles qu'il appelle. À ces personnes donc qui en viennent à crier à lui, à le prier. Il leur fait justice, dit notre texte. Votre prière, vos cris, vos larmes, vos révoltes intérieures, Dieu les entend et il leur fait justice. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Dieu les entend. et l'interpellation de Jésus. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, donc lui, Jésus, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une bonne question, hein? Alors ce verset, moi je l'entends un petit peu cité quand on dit « Ouais, l'Église se refroidit, puis les autres religions, et puis ouais, c'est là, hein, Jésus il a dit, est-ce qu'il trouvera la foi quand il reviendra sur la terre ?» Ayez peur. Mais c'est pas ça. Le texte n'est pas là pour ça, les amis, vraiment. Parce que Jésus termine cette péricope, cette histoire de la veuve, avec cette question qui montre que le fondement de la justice, c'est la foi. C'est la foi qui nous ouvre les yeux sur ce qui mérite que nous nous mobilisions, que nous nous engagions de tout notre être. La foi, alors, elle vient nous engager à la prière pour que nous puissions nous forger des convictions qui ne vacilleront pas au premier vent contraire. Et cela nous permet, à l'arrivée, parce qu'on a des convictions forgées dans la foi, cela nous permet de ne pas nous lasser, de ne pas abandonner. Cela nous permet d'être patient. Cela nous permet d'inscrire nos actions, nos engagements dans la durée. Pas dans le coup de foudre, dans la durée. Parce que le temps, à ce moment-là, cesse d'être cet intervalle pendant lequel nous ne ferions pas ce que nous voudrions faire, ou la durée pendant laquelle nous n'obtenons pas ce que nous espérons. Mais le temps devient ce qui est à notre disposition pour faire advenir ce qui compte vraiment parce que ça nous relie à la foi. Le temps ne joue pas contre nous. Nous travaillons avec le temps pour faire advenir ce que nous avons choisi d'important. Alors on admire l'attitude de cette veuve. Et je finis avec ça. On admire sa présence à la vie. Cette veuve, elle est une invitation à être témoin de l'Évangile en toutes circonstances, dans tous les domaines de la vie, y compris ou en particulier quand ça nous touche de près. Cette veuve nous dit qu'être témoin de la vie en Dieu, ça se fonde sur la foi en Dieu et ça se travaille par la prière. Et tout ça, au bout du compte, nous rend patients, patientes. Pour ne pas renoncer à nos idéaux, pour ne pas renoncer à une vie profondément juste, alignée, et pour avoir une manière d'être, pour avoir des paroles, pour avoir des réactions qui rendent Dieu présent dans le monde. Ce qui sera à même de convertir les esprits les plus obtus. Si nous rendons Dieu présent dans ce monde, les esprits les plus obtus seront convaincus. Frères et sœurs, la victoire par laquelle le monde de l'injustice et du malheur est vaincu, dit Jean, c'est notre foi. Pas notre catéchisme, pas nos actions, pas les marches pour Jésus, ça peut se faire, hein, pas les grands concerts, pas les grandes conventions. Le monde est retourné par notre foi, par notre relation avec Dieu. Si seulement nous l'incarnons. Et comme ça, le monde de l'injustice et du malheur est vaincu. J'aimerais nous encourager à la foi qui se manifeste par la prière et qui aboutit dans ce monde à la mère des vertus, qui est la patience. Amen. Quelques instants pour compléter le slide-o, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Le temps pour moi de prendre connaissance de vos questions, s'il y en a. confirme, ça vaut probablement la peine d'insister sur le format Slido. 10 questions, je vais essayer d'y répondre. Aline, je sais que tu as peur du timing et tout, mais on va y arriver et on va faire le culte comme tu l'as soigneusement préparé pendant cette semaine. Mais rassurez-vous, on ne va pas finir à midi. En plus, on continue avec un repas, donc tout va bien. Je prends ces très bonnes questions, pour lesquelles vous pouvez voter en plus. Est-ce qu'attendre avec confiance la réponse de Dieu en son temps, sachant qu'il a entendu ce qu'on a déposé devant lui, est OK sans répéter sans cesse? C'est une super question. Il y a deux optiques possibles. Il y a l'optique de Dieu et il y a la mienne, la nôtre. Dans l'optique de Dieu, ce qu'il a entendu est enregistré. Et je ne crois pas que Dieu répond plus si on prie plus souvent pour la conversion d'un enfant, d'un parent, la guérison d'un être cher, une rencontre amoureuse, enfin. Je ne suis pas sûr que... Enfin, ouais, je suis pas vraiment convaincu que Dieu répond plus parce qu'on prie plus. Mais nous, on a besoin des fois d'exprimer et d'exprimer encore ce qui nous pèse sur le cœur. Donc il me semble qu'il y a deux optiques. C'est OK pour Dieu de le dire qu'une fois, c'est enregistré. Mais c'est peut-être pas OK pour nous de ne pas se rappeler ce qu'on a besoin de déposer devant lui. Je ne pense pas qu'il y a une seule bonne réponse à cette question. Mais je vous suggère que le principe de répétition, qui est même, à mon avis, un des fondamentaux de l'éducation, vaut aussi pour nous dans notre piété personnelle. Patience ou persévérance? Ce que vous voulez. Soyez patient, soyez persévérant. Pour moi, on est dans la même catégorie. Il me semble que peut-être la patience, c'est plus une attitude intérieure et la persévérance se manifeste plus par des actes. Mais allez-y, soyez patient et persévérant. On a besoin de gens patients et persévérants dans le monde. On en a besoin dans l'Église, de gens patients et persévérants. On en a besoin dans les entreprises, dans les classes, dans les assos, dans le voisinage. Soyez patients et persévérants. Comment peut-on distinguer la patience, risque de paraître impatient, de la passivité? Super question aussi. La patience de la veuve est active. Elle va devant le juge pour lui casser la tête jusqu'à ce qu'elle obtienne justice. Elle n'est pas passive. Elle ne se dit pas, ouais, bon, je l'ai dit une fois, je vais écrire encore un mail de réclamation, puis après, advienne que pourra. Non, elle y va. La passivité, c'est laisser tomber, c'est baisser les bras, c'est se laisser porter par le courant. La patience, elle est active. Elle peut sembler molle, mais elle est active. Il y a un classement qui change au fur et à mesure. Y a-t-il des niveaux de foi différents? Seigneur, garde-moi d'évaluer le niveau de foi de mes prochains. Qui suis-je pour le faire? Quand je vois la misère de ma foi à certains moments de ma vie, je suis très heureux que personne soit venu mettre un point d'exclamation après ma misère de foi. Je ne crois pas que c'est l'intensité de la foi qui compte dans la Bible. C'est l'objet de la foi. Ce qui vous sauve, ce n'est pas parce que vous avez une foi forte ou ce qui vous perdrait une foi faible. C'est l'objet de votre foi. C'est le Christ qui vous sauve. C'est Dieu, l'Éternel, l'objet de la foi. Pas votre foi à vous. Et fuyez une église qui viendrait mettre des jauges à votre foi. Fuyez ! Parce que ça, c'est une église qui veut prendre le contrôle sur votre vie. Quoi faire du mot « rapidement » ou « bientôt » suivant la traduction dans le texte alors que ça peut prendre beaucoup de temps? Ouais. le rapidement ou le bientôt de Dieu n'est pas le mien. Je l'observe dans ma vie depuis le jour où je prie. Alors des fois, le bientôt, il a même précédé la demande. Puis des fois, ben, je ne le vois pas encore, je ne l'ai pas encore vu. Et puis j'apprends à accepter le temps de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile. Je vous suggère que le temps, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à maîtriser. Pas à subir, mais à maîtriser. Quelle justice rapide peut-on attendre? Il arrive que la justice soit très rapide. Rappelez-vous le procès du Christ, hein, et puis cet homme qui meurt là sur l'estrade, rongé par l'hiver. Ça n'a pas traîné. Il y a des dictateurs qui sont déchus en deux temps, trois mouvements. Et puis il y a des affaires de justice qui prennent des années. Pourquoi il faut 30 ans pour que les abus de Patrick Bruel et d'autres sortent? Ben, c'est dur de se confronter à la justice, surtout quand on a l'impression ou la certitude qu'on ne sera pas cru, qu'on sera moqué, et puis que cette justice est tenue par ceux qui tiennent le pouvoir. Mais Dieu va rendre justice, je vous assure. Dieu va rendre justice, parce que c'est dans son caractère immuable, la justice de Dieu. Si la patience est une vertu chrétienne, alors qu'en est-il des non-chrétiens plus patients que nous? Ben, faut qu'on apprenne d'eux. Il n'y a pas de raison que les seules personnes valables de qui on puisse apprendre quelque chose soient assises sur ces chaises. Ben, y en a plein, hein. Moi, j'apprends des trucs de dingue avec vous. Mais il y a aussi des gens à l'extérieur qui nous enseignent des choses. Il faut lire, il faut écouter. Il faut observer, faire le tri. Mais je pense qu'on peut se nourrir de la patience remarquable de quelques personnes tout à fait en dehors de nos convictions. Je reste convaincu, encore une fois, et je finis avec ça, que la patience découle de la pratique de la prière qui nous fait attendre le temps de Dieu et que la pratique de la prière se développe à partir de notre foi en Dieu. Que Dieu nous aide à tenir ça en équilibre. Et puis on poursuit, on finit le culte avec ce que tu as préparé, Aline.
Nous allons maintenant passer à la Sainte Cène. Et puis avant qu'on la prenne, j'aimerais lire donc le passage biblique dans Matthieu 26, les versets 26 à 29. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et il le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez et mangez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Alors juste pour reconstituer le contexte, donc les disciples ont tout préparé comme Jésus leur avait demandé. Et comme vous le savez, pendant qu'ils mangent ce repas, ben Jésus leur annonce, vous savez, il y en a un de vous qui va me trahir. Et chacun des disciples dit, ben Seigneur, ce sera moi. Et puis il y a même Judas qui dit, Seigneur, c'est moi que tu penses, enfin tu penses que c'est moi qui va te trahir. Puis Jésus, il lui dit honnêtement, oui, oui, ce sera toi. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais moi, si je savais qu'un de mes meilleurs amis, qui a passé beaucoup de temps avec moi et que j'apprécie, je pense, beaucoup, me dit, ben, en fait, je sais qu'il va me trahir et qu'à cause de lui, je vais subir le pire des calvaires et je vais devoir mourir, ben, moi, je lui dis, ben, ciao, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie, hein, dégage. Mais Jésus, il ne fait pas ça. Il invite quand même Judas à manger avec lui. Donc voilà, j'aimerais juste qu'on prenne cette sainte scène dans un état de reconnaissance, dans un esprit de reconnaissance, parce que c'est Jésus, à travers son acte, qui nous ouvre la porte pour parler avec Dieu directement. Et c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, alors voilà, je demande à aux gens auxquels j'ai demandé, s'il vous plaît, de venir devant pour faire la distribution. Et puis à la fin, je prierai. Seigneur, merci pour ton sacrifice pour nous. Merci pour ta présence chaque jour à nos côtés. Et merci pour ta puissance et ta gloire. Rien n'est impossible à toi. nous pouvons venir avec toutes nos demandes auprès de toi, le Créateur de l'univers, et tu les exauces à ta manière, si c'est bien pour nous. Merci que tu sois un Dieu qui donne et qui aime donner, qui aime fortifier et relever. Merci pour ta gloire, Seigneur. Amen. Après ce magnifique chant, nous passons à l'offrande. Vous connaissez déjà ce que j'appelle des pots de fleurs. Ce n'est pas des pots de fleurs, mais vous pouvez mettre quelque chose devant si vous le voulez ou donner par Twint, comme vous voulez. Sentez-vous libre.
Voilà, on va voir si vous arrivez à faire deux choses en même temps. Il va falloir écouter ce que je dis et en même temps faire passer les pots de fleurs ou les trucs à pop-corn. Deux, trois annonces avant de redonner la parole au groupe de chant. Dimanche prochain, après je reviendrai à ce dimanche. Dimanche prochain, on a le culte ici à 10h comme d'habitude. Et puis nous allons marquer le coup pour la fin du cathé. C'est la saison, hein, à la fin de l'année scolaire, il y a différentes fêtes, les parents connaissent bien ça, et puis on va marquer le coup pour ceux qui finissent le cathé cette année. On prend un petit temps pour ça, et puis il y aura un apéro qui sera servi à l'issue du culte. Donc venez nombreux pour écouter ces jeunes, les soutenir, et puis célébrer avec eux cette étape importante. Il y aura aussi un actumérin qui va sortir, normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, donc je vais le faire en début de semaine, là. Il y aura pas mal d'infos pour l'été. On va parler des cultes en alternance, il y aura les grillades, il y a le culte de la rentrée et encore plein d'autres choses. Donc, ceux qui reçoivent l'actu, lisez-le. Et puis, ceux qui ne le reçoivent peut-être pas encore et qui se disent « Mais comment est-ce que je peux recevoir cet email ?» Eh bien, je vous rappelle qu'il y a des codes QR à l'arrière, là-bas. Vous pouvez simplement scanner, vous inscrire et puis vous recevrez ça automatiquement dans vos boîtes mail. Et si vous ne comprenez rien à tout ça, comme d'habitude, vous pouvez venir me voir et puis on fait ça ensemble. Voilà. Mais oui, il y aura pas mal d'infos et trop d'infos pour qu'on puisse dire ça au micro. Mais on vous rappellera deux, trois choses quand même, ne vous inquiétez pas. Voilà, le repas communautaire tout à l'heure. Première chose, vous êtes tous les bienvenus. Peut-être que vous êtes là pour la première fois, peut-être que vous venez et que vous n'avez pas lu l'actumérin, vous avez loupé des annonces, vous dites « mince, j'ai rien prévu, j'ai rien à manger ». C'est pas grave, il y a toujours assez à manger. Donc on aura un repas, chacun a amené des choses, on va partager, ça sera mis sur des tables, et puis on aura ces discussions autour du thème de la prière communautaire. Soyez les bienvenus. Okay. Tout le monde est vraiment le bienvenu. C'est une bonne occasion aussi d'apprendre à se connaître. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais. Pour le repas, on aura besoin d'empiler les chaises par pile de 10. Vous connaissez bien comment ça se passe. Merci de laisser les piles là où elles sont. Pas besoin de les traîner. On a un chariot, on a une petite équipe qui va s'occuper de ça et on va mettre en place la salle. Merci aussi de sortir de la salle assez rapidement. Comme ça, on peut... Voilà, manœuvrer avec nos piles de chaises sans danger que ça tombe sur quelqu'un. Et puis, on vous rappellera quand tout sera prêt. Merci d'avance. Donc, merci d'empiler les chaises par 10 à la fin du culte. Voilà, je vous laisse continuer. Merci.
Alors, terminons ce culte par « Je louerai l'Éternel ».
Voilà, merci à l'équipe de Louange pour aujourd'hui. Merci à tout le monde qui a participé à ce culte. Merci pour votre offrande. Et avant de vous envoyer dans la nouvelle semaine, j'aimerais juste vous lire un psaume très court, le psaume 125. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme une montagne de Sion qui sera toujours là, inébranlable. Jérusalem est entourée de montagnes. De même, le Seigneur entoure son peuple dès maintenant. Et pour toujours. Un gouvernement indigne ne se maintiendra pas dans le pays des justes, de peur qu'il soit tenté de prendre part au mal. Seigneur, montre-toi bon pour ceux que tu trouves bons, pour ceux qui ont le cœur droit. Mais les personnes qui font du mal en suivant des chemins tortueux, que le Seigneur les chasse avec ceux qui font le malheur des autres. Que la paix soit donnée à à Israël. Amen. Et bonne semaine à tous. Merci d'être venus.